Il est 18h17.
France Inter, le 18-20.
Avant, il y avait du plastique partout ici. Maintenant, il n'y a plus de plastique. Car les gens emportent des sacs de toile.
Et ben voilà, ça se passe à France Inter ici aujourd'hui, mais ça se passe partout dans le monde. Ce que vous avez entendu nous vient de Bombay, qui prend les mêmes mesures, qui a les mêmes craintes, les mêmes préoccupations aussi autour de sa pollution au plastique. Vous verrez que dans toute cette région, on a banni, on essaye en tout cas de bannir le plastique et c'est plus ou moins réussi. Ce sera un reportage signé Sébastien Farcy. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu au Mexique, en Iran notamment. 18h50, le cinéma en VO, Eva Bétan avec le film israélien qui a remporté l'Ours d'Or au Festival de Berlin tout récemment. Et puis 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four, étonnant pays au pluriel de l'Est européen qui sont bien moins caricaturaux qu'on veut le dire. Nous irons en Slovaquie avec cette femme notamment qui pourrait remporter les élections. Mais avant, direction le Mali, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
160 morts dans un village Peul au centre du Mali, l'attaque la plus meurtrière de ces 6 dernières années. C'était le 23 mars dernier, donc samedi. Depuis, des représailles, depuis surtout la crainte, ni plus ni moins, d'une escalade que certains qualifient de véritable nettoyage ethnique. On va y venir avec notre invité, les ONG, en tout cas les spécialistes s'alarment. Bonsoir Florent Gel.
Bonsoir.
Vous êtes directeur Afrique de la FIDH. D'ailleurs, est-ce que c'est un terme que vous employeriez, vous ? Est-ce qu'on parle de nettoyage ethnique dans le centre du Mali ou pas ?
C'est un terme qu'on s'est longtemps refusé, enfin, à employer, tout au moins avec grande précaution, et c'est un terme qu'on utilise depuis samedi. Non pas uniquement de par l'ampleur des massacres, mais c'est la récurrence, la radicalité de derniers massacres qui fait que maintenant il faut nommer les choses. Et dire que il se déroule dans le centre du Mali des exécutions d'une ampleur qui sont du nettoyage ethnique. Nettoyage ethnique qui ne veut pas dire grand-chose en termes juridiques. En termes juridiques, on dirait crime contre l'humanité. Mais ça, on le dit depuis des mois, hein, en fait.
Donc ça veut dire que les victimes sont toujours les mêmes, que ce sont ceux-là en particulier, là en l'occurrence les Peuls que l'on vise. Parce qu'on a un peu l'impression que d'une milice à l'autre, au milieu du djihadisme et du reste, et on y viendra, tout ça est extrêmement confus en fait.
C'est confus, mais en fait il y a un schéma qui a été développé et mis à l'œuvre par les djihadistes depuis 2015 dans le centre du Mali, qui fait en sorte que le Mali est devenu une cible pour eux à ce moment-là. Chassés du nord par l'intervention française, ils se sont repliés dans divers endroits et ont visé le centre du Mali. Et donc, ils ont mis en place leur stratégie, c'est-à-dire de cibler les représentants de l'État, l'armée, les gendarmes, les agents des eaux et forêts, les enseignants, etc., pour vider cette zone-là de la présence de l'État et pour pouvoir être l'arbitre, le garant de la sécurité, les juges, etc. Ils font la loi. Et puis, ben, face à ce vide, se sont constituées des milices parmi toutes les communautés qui composent le centre du Mali. C'est un endroit assez cosmopolite. Et donc, du coup, ces milices ont commencé à vouloir se défendre. Et puis, de la défense, sont passés à l'attaque et ont attaqué les autres communautés.
Alors, Florangel, est-ce que ça veut dire, au fond, que qu'on s'est trop focalisé sur le Nord et qu'on a oublié, entre guillemets, de regarder que le centre de gravité du djihadisme au Mali, au fond, était en train de descendre, était descendu? Est-ce que c'est ça la vraie raison? Est-ce que ces djihadistes-là, est-ce que ce djihadisme-là est exactement le même que celui du Nord qui s'est déplacé? Est-ce que c'est, pardon de le dire comme ça, aussi simple que ça?
D'une certaine façon, oui. Parce que on a raison de s'être intéressé au Nord. On a eu tort. Enfin, les
on
acteurs.
On y est encore par ailleurs. Oui, on n'a pas fini.
Bien sûr. Les acteurs internationaux ont eu tort de ne pas s'occuper du centre en même temps. Et maintenant, on parle du Mali parce qu'il y a eu un massacre de 160 personnes. Mais ce qui est en train d'arriver au nord du Burkina, ça fait déjà un an qu'on le dit aussi, et c'est en train d'arriver. Il y a des massacres aussi d'une ampleur extrêmement conséquente. Il y a une expansion du djihadisme dans le Sahel aujourd'hui, qui est réel, qui est un peu sous-estimé par le grand public et par les autorités des pays concernés, même s'ils sont concernés par ces questions. Il faut prendre la mesure de cette expansion du djihadisme, mais surtout il faut y apporter des réponses, c'est-à-dire d'abord le contenir et ne pas considérer que chaque Peul, comme dans le centre du pays, est un djihadiste en puissance. C'est surtout quelqu'un qui a besoin de protection, et donc les djihadistes lui offrent sa protection, mais ça serait mieux que ce soit quand même les États de la région qui offrent la protection à ces populations. Et puis c'est la stigmatisation. Aujourd'hui, comme dans la pensée de certains, comme tout Nord-Africain est un djihadiste, comme tout musulman est un djihadiste pour de nombreuses personnes, dans le centre du Mali, tout Peul est un djihadiste.
Des Peul dont on dit qu'ils ont été enrôlés, que certains ont été enrôlés, et précisément, et c'est ce que vous disiez, pour de pures raisons économique au fond, parce que cette région-là et on est dans une, j'allais dire une crise économique, mais ça c'est des termes qu'on emploie nous, dans nos sociétés à nous, ça, on est bien au-delà évidemment d'une crise économique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Est-ce que c'est la raison pour laquelle un certain nombre de Peuls, et ça pour le coup c'est vrai, se sont laissés convaincre par les djihadistes ou pas?
Oui, parce que il y a également, outre la misère, etc., le centre du Mali est un conflit climatique, un des plus grand conflit climatique de la planète, puisqu'il y a un combat pour un accès aux ressources, qui se sont raréfiées, des sécheresses, une multiplication des cheptels, etc., etc., pour un certain nombre de raisons. Et donc, c'est dans l'absence de l'État qui gère les conflits et les différends, les communautés se battent pour accéder à ces ressources, le tout instrumentalisé de façon très pensé, très adapté, avec une capacité d'adaptation très forte des djihadistes. Et donc, ils arrivent à s'adapter et à avancer, à gagner du terrain. Ils l'ont fait dans le centre du Mali, ils le font aujourd'hui au Burkina Faso. On s'inquiète qu'ils le fassent au Bénin ou au Togo demain.
On va y aller d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'on est effectivement à la frontière du Burkina. Un dernier mot quand même avant. Vous dites en gros que 40%, c'est ce qu'il y a dans le rapport de l'AFIDH, que 40% des attaques djihadistes désormais se font dans le centre du pays. Vous parlez même de 1200 civils qui ont été tués. On a l'impression de quelque chose qui est très à bas bruit, au fond, parce qu'on le découvrirait presque, parce qu'il y a eu un massacre aussi important samedi dans ces régions-là.
Oui, parce que pendant longtemps et pendant des mois, les autorités maliennes ont cherché à gérer eux-mêmes la question et à ce qu'on ne parle pas trop de cette question, parce qu'ils pensaient pouvoir le gérer. Sauf qu'ils ont laissé une véritable impunité s'installer, d'abord de l'armée, qui elle aussi a commis des massacres. On le met dans notre rapport, on le prouve, on a fait des enquêtes, et aucun soldat malien n'a été poursuivi en justice. Et donc ça a donné un sentiment d'impunité aux milices Dogon, pour commettre également des exactions.
Alors l'armée qui a commis des massacres, mais l'armée qui elle aussi est victime, puisque c'était la semaine dernière où il y a 10 jours, il y a eu 25 morts dans l'armée malienne. Donc au fond, elle se situe où l'armée, et faut-il qu'elle intervienne? On a bien vu que la moitié de l'état-major avait été limogé là, ça s'est passé ce matin ou hier, peu importe. Est-ce qu'il est en train de se passer quand même quelque chose dans cette armée malienne? Est-ce qu'on peut bouger les lignes avec cette armée malienne ou pas?
Bien sûr, parce qu'une armée n'a pas vocation définitive à commettre des exactions. Une armée, ce sont des gens à qui on donne des ordres, une façon de fonctionner, etc. L'armée malienne n'est pas condamnée à être une armée d'exactions, c'est pas vrai. L'armée malienne peut tout à fait, sur ordre, essayer de conquérir le cœur et les esprits de ses populations du moment où elle considère que tout Peul n'est pas un terroriste, du moment qu'elle considère que tout Touareg n'est pas un terroriste, du moment, etc. Et c'est pas une vision angélique. Ce que je veux dire, c'est que on gagne la guerre contre le terrorisme pas par en éradiquant et en éliminant simplement des cibles humaines. On gagne la guerre contre le terrorisme en résolvant les causes du terrorisme. Et les causes du terrorisme dans cette région comme ailleurs, c'est la pauvreté, le manque de sécurité, le besoin de développement économique, etc., etc.
Une problématique sociale qui va bien au-delà, en fait, de la pure problématique militaire, effectivement. Pas d'arrestation du tout?
Non.
Jamais?
Jamais.
Même pas les précédents dont vous parlez dans votre rapport, par exemple?
Si, il y a une arrestation qui s'est déroulée. Ce sont des milices Dogon qui ont exécuté des gens en 2017. À un enterrement, 40 personnes ont été exécutées, ces personnes ont été jugées. Le résultat du jugement, c'est que sur les 17 personnes inculpées, 15 ont été libérées et 2 ont été condamnées à 5 ans de prison avec sursis. Donc ça s'appelle une prime à l'impunité. Et c'est pour ça que dans les années qui ont suivi, 2017, 2018 et maintenant 2019, ceux qui commettent des crimes savent qu'ils ne seront pas poursuivis.
Donc pas d'arrestation, pas de revendication non plus? C'est pas le modus operandi, c'est pas le...
C'est le modus operandi des groupes armés Dogon, ces milices qui attaquent, ils sont... on les reconnaît aussi par leurs vêtements, par leur type d'armement, etc. les informations sont quand même relativement précises et donc les enquêtes le montreront, mais il faut surtout que les enquêtes le montrent et puis surtout que la justice passe. C'est ça qui va participer d'arrêter ces massacres, c'est que on saura que la justice est passée et qu'on peut pas tuer impunément n'importe qui, n'importe comment, et surtout pas des femmes et des enfants comme ça s'est déroulé.
Ce qui s'est passé là ces derniers jours, c'est que certains chasseurs de Gonds ont été leur groupe, il y a eu dissolution de ces groupes en fait. Est-ce que ça a un sens la dissolution de ces groupes? Est-ce que c'est un signe fort quoi qu'il en soit? Moi bêtement je me dis que si on n'enlève pas les armes à un groupe qui a été dissous, il a qu'à se refondre ailleurs et s'appeler différemment. Mais est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça dit quand même qu'on prend les choses en main ou pas du tout?
Non, comme vous le dites, et le bon sens est raison dans ce type de situation. Évidemment que la dissolution est une réponse politique. Malgré tout un geste fort, mais une réponse politique et dans l'urgence à un massacre. Mais il est évident qu'il faut avant tout les désarmer pour qu'ils ne soient plus opérationnels et surtout ne pas faire en sorte que une communauté venge les crimes de quelques-uns sur toute une communauté, sur l'ensemble d'une autre communauté, et deux, on ne doit plus privatiser la protection des populations dans cette région. Il faut que ce soit l'État, les forces internationales qui protègent ces populations.
Vous l'avez évoqué, le village de Gossagou qui a été victime de ce massacre, donc il est à la frontière avec le Burkina, en fait, il n'est pas loin. Effectivement, toutes ces frontières sont extrêmement poreuses. Est-ce qu'il existe une vraie crainte de jonction avec Boko Haram, dont on sait qu'il est aussi dans ces région-là, dont on sait aussi que les gens qui commettent des exactions montent ensuite un peu plus vers le nord? Est-ce que cette crainte, elle existe, ou est-ce que même ces liaisons sont déjà avérées ou pas?
Ces liaisons existent, elles sont minimes et elles ont en ce moment, pour le moment et pour les mois à venir, pas tellement vocation à se renforcer. Ils ont chacun leur stratégie d'action, ils se connaissent, ils se parlent, certains sont dans les mêmes groupes, mais pour l'instant il n'y a pas de jonction envisageable. Les objectifs sont les mêmes, mais dans des zones différentes en quelque sorte. Donc le djihad généralisé, coordonné, etc. n'est pas pour 2019. Mais l'extension du djihadisme dans le Sahel et l'extension, la résurgence de Boko Haram, notamment dans la région du lac Tchad et dans le nord du Nigeria, est extrêmement inquiétante. Les deux mouvements sont inquiétants parce que des mouvements que l'on pensait pouvoir combattre et un perte de vitesse et contre lesquels on met beaucoup de moyens, militaires, humains, etc., eh bien, on n'arrive quand même pas vraiment à les contenir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un peu changer de stratégie et arriver à mixer des réponses sécuritaires, certes, mais il ne faut pas que la réponse sécuritaire, ça soit juste éliminer des populations. Ça ne servira à rien. On ne gagnera pas le cœur et les esprits de ces populations en les tuant.
Florent Jallet, une dernière chose dont on n'a pas parlé. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les Français? Est-ce que nous avons, nous qui sommes là, toujours dans le Sahel, une part de responsabilité? Est-ce que, et quelle est-elle? Est-ce que nous pouvons, nous, agir différemment ou pas?
Oui, nous pouvons bien sûr agir différemment. Alors, les forces françaises interviennent très très peu dans le centre du Sahel. Ils ont mené deux opérations militaires, aériennes essentiellement. Donc, dans le centre...
presque envie de dire, est-ce qu'elles en ont les moyens? Elles ont déjà une zone démente à couvrir, enfin, mais bon...
Ils sont prêts à le faire parce que ils connaissent le danger, ils voient le danger, ils s'en inquiètent depuis longtemps, mais c'est vraiment l'État malien qui n'a pas souhaité qu'ils interviennent pendant un long moment. Peut-être que les choses vont changer, de même que les Nations Unies. Les Nations Unies font des enquêtes, etc., mais leurs forces armées n'interviennent pas. Par contre, il faudra leur donner évidemment des moyens plus conséquents. Par contre, la France a une autre responsabilité au Sahel, puisqu'elle intervient militairement depuis 2013 de façon massive dans le cadre de l'opération Barkhane et un peu partout. Et elle aussi, elle a une vision très militariste de cette question. La France a essayé d'équilibrer avec ses partenaires européens, avec l'Alliance pour le Sahel, qui est une organisation de développement. Mais sur le terrain, il est clair qu'il y a des jeux dangereux qui sont joués, et puis il y a des messages qui sont... qui sont pas toujours très clairs.
C'est-à-dire
Par exemple, l'AFD, qui a une revue qui s'appelle Afrique contemporaine, a suspendu un numéro sur le Mali parce que un article qui était issu de notre rapport, par exemple, parlait des exécutions faites par
les... Cet article a été publié par Le Monde, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Donc, voyez, ce type de réaction, et on doit avoir une approche beaucoup plus ouverte, beaucoup plus réelle sur ce qui est en train de se passer. Comme je vous le disais, le Burkina Faso est en train de passer de rouge au rouge cramoisi. Le djihadisme est en train de gagner du terrain. Il faut se poser des questions sur comment on fait, quels sont nos moyens d'action, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut changer. Nous, on a des réponses. La lutte contre l'impunité, par exemple. Juger les gens. Au Mali, personne n'a été jugé. Il y a un type qui avait pris 10 ans de prison pour des crimes commis à Gao, il coupait des mains pour l'imposition de la charia. Il vient d'être libéré en catimini. On représente des victimes un peu partout dans ces pays, des victimes des djihadistes, des victimes de l'armée, des victimes des groupes, etc., etc. Personne ne voit un seul procès. Donc, comment ces populations peuvent voir en l'État un organe qui va les protéger, qui va leur apporter la justice dont ils ont besoin.
Et donc ne pas tomber dans les bras du djihadisme. Exactement. Et on revient au début de la conversation qui était la nôtre.
Bien sûr, apporter des services de base aux populations, et vous allez voir, ils vont moins tomber dans les bras des djihadistes, ça c'est évident.
Florent Jal, directeur Afrique de la FIDH, avec nous dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
Merci à vous.
France Inter, Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe en Inde, puisque c'est la journée sans plastique sur France Inter. Vous allez voir que, évidemment, le reste du monde s'en soucie aussi. La région de Bombay également, qui avait la réputation d'être très polluée en plastique. Dans cette région, on a pris des mesures qui sont réellement drastiques. Sous les radars, et Amélie Perry, avec notamment les Mexicains qui veulent que les Espagnols leur présentent des excuses pour les conquistadors, le cinéma en VO avec Eva Bétan. Bonsoir Eva.
Bonsoir.
Et un film israélien.
Oui, de Nadav Lapid, où se dort à Berlin. Le film s'appelle Synonyme, cinéma brillant. Dérangeant aussi, comment il va chercher les mythes fondateurs de son pays pour les mettre en pièces.
Et on verra ça ensemble, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Ben là aussi, essayons de mettre en pièces deux, trois choses d'ailleurs. Qui est cette jeune Slovaque qui nous étonne avant le deuxième tour de ces élections?
Let me introduce Zuzana Kaputova. Oui, elle est Slovaque, elle sera probablement présidente de son pays dimanche et c'est un peu l'anti-Orban.
Allez, le tour de la planète n'est pas fini. Voici Loïc Garner sur France Inter et dans Un jour dans le monde, You Don't Know.
Started when you were year above, before I had a favorite love, before back when I adored but now I'm fearing love, before every other fell up I was hearing love, back when the day would fade to grey when you were clearing love, cause now I only made love if I'm in love. You wasn't in love, then what'd you think, love? Thinking I'ma hold you on the brink until we sing. Fade like a bubble, rather have another drink, love. I'll drink up and disappear. Cause honestly, you don't need me here. It's like you need it, can't defeat the fear. But now I see you can't believe, but I read it clear. Play me like an arse, I won't spend another evening here. Deep, the evening clears, drowning in stuff. Just know you clouded my guts, going down on this love. But now I sit in a hurry, worry nuts that I bust. Knowing you only went down to f***, so what the fuck is up?
You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for.
Check, look. I know this shit sounds philosophical and borderline ironic, but this topic's very logical. Whether it's a blessing or a motherfucking obstacle that breaks apart and leaves the brokenhearted to the hospital. Powerful devotion for some. When I was young, lack of any kind of emotion had me hopeless and numb. Back when I was dumb, I was never running my gums, just always running from webs that I spun. Stress weighing a ton, weight was more than I was able to bear. Cause in my mind it's mad fruity to be labelled a pair, but blatantly scared, escaping any fragrant affair. That was my duty, always threw me into time to despair. Writing rhymes to try to describe the many times that I care. Cause honestly, to put it properly, I'm underprepared. And who am I to play the cast away? I've got a bigger part to play. So when they ask me, it ain't hard to say.
You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for.
So why are you crying? Stop the crying, I weren't crying on you. Stop the lagging, worry about them brothers lagging on you. They're sliding on you, bump and grind every night upon you. Getting slag upon you, crag upon you, then get tired of you. Balling cause I ain't on you, what the fuck you mean? Closest to trust I've ever seen. Well shit, well there I said it now, forget it like a dream. No regret, can't forget the shit you seen. Should've kept it clean. Should've kept it clean.
Je crois qu'il a dit une grossièreté, monsieur Le Carner. You don't know sur France Inter. Allez, Amélie Perry est là, sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie, les éléments frappent l'Iran comme rarement.
Le pays subit actuellement des inondations d'une ampleur inédite. Au moins 23 personnes sont déjà mortes. Une centaine ont été blessées dans le sud du pays, dans la région de Shiraz, davantage habituée aux sécheresses. Un village a carrément été enseveli par un glissement de terrain et les habitants postent des vidéos impressionnantes sur les réseaux sociaux. Ici, c'est un Iranien devant une rivière transformée en énorme torrent boueux qui emmène tout sur son passage. Et là, c'est une habitante devant sa maison. Elle dit qu'elle a tout perdu dans les inondations et elle met en cause les autorités qui n'ont rien fait. Il faut dire que l'Iran est en pleine fête du nouvel an persan, Nowruz. Beaucoup des membres des secours sont en congé, ce qui a ralenti le travail sur le terrain. Le gouvernement met en cause le changement climatique, mais certaines voix accusent le pouvoir d'avoir construit dans des zones inappropriées, d'avoir obstrué les lits des rivières et de mettre en danger le patrimoine iranien, comme la tombe antique de Cyrus le Grand près de Shiraz.
Sinon, pardon, excusez-moi Amélie, un passé colonial qui ne passe pas pour le pouvoir mexicain.
C'est l'initiative du président Andrés Manuel López Obrador, AMLO comme on l'appelle. Il vient d'envoyer une requête au roi d'Espagne. Il demande des excuses pour les abus commis contre les peuples indigènes il y a 500 ans, quand les conquistadors sont arrivés sur le territoire.
Rechazan, non ?
Alors il dit, ils ont rejeté ce que nous avions proposé dans la lettre. C'est le président, un mexicain, qui parle à la tribune. Un message donc que nous n'avions pas rendu public, par respect, que nous avons envoyé au roi d'Espagne et au pape François. Nous n'allons pas tomber dans la confrontation, que ce soit clair, dit-il, ni avec le gouvernement espagnol, ni avec aucun autre gouvernement. Alors les Mexicains, eux, sont divisés, voire sceptiques. Je pense, dit cette Mexicaine, qu'il y a des choses plus importantes vraiment auxquelles ce temps devrait être consacré, comment perdre du temps sur quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps. Et cette autre affirme, cela s'est passé il y a si longtemps, alors à ce stade, que faisons-nous à demander des excuses? Voilà pour le Mexique. En Espagne, en revanche, en pleine campagne pour les élections générales fin avril, les partis ont trouvé là un bon sujet de débat. Ciudadanos s'est dit offusqué par les demandes du président mexicain, une offense au peuple espagnol. La droite du Parti Populaire conseille à AMLO de s'en prendre plutôt au Venezuela, de Maduro qu'au passé des conquistadors. En revanche, Podemos, la gauche radicale, a salué cette demande. AMLO a raison de demander au roi des excuses.
Allez, c'est un sport où tous les coups sont permis.
Qui tient en trois lettres MMA pour arts martiaux mixtes en anglais. Et l'on s'intéresse ce soir à l'une des stars de l'octogone, le ring ou plutôt la cage entièrement grillagée où se déroulent les combats. C'est l'Irlandais Conor McGregor. Et voilà, il a 30 ans, c'est un poids plume, hein, 1m75, 70 kilos, mais tout en muscles et en tatouage. Et quand vous le voyez cogner là sur ses adversaires, finir en sang, vous n'avez pas du tout envie de l'énerver, le garçon. Il vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite. Et ce ne serait pas que pour des raisons sportives. Le New York Times fait le lien entre la fin de sa carrière et son arrestation en janvier pour agression sexuelle. Aucun lien, dit l'entourage de l'Irlandais.
Non,
certainement pas, on va voir. Surnommé The Notorious, le célèbre, il a construit sa légende avec de nombreux titres et des combats restés fameux, comme celui contre la légende de la boxe, l'américain Floyd Mayweather, en août 2017 à Las Vegas. Mais ces derniers mois, on parlait de lui davantage en dehors de l'octogone. Il y a un an, il blessait deux combattants MMA après une conférence de presse où il n'était pas invité. Puis au début du mois, il a été arrêté dans une boîte de nuit à Miami. Et maintenant, cette accusation d'agression sexuelle, tous les coups sont permis, ou presque, et seulement dans l'octogone.
Voilà. Alors, Jean-Marc Four, qui vient de s'asseoir et qui n'a que ça à faire,
vient nous montre la tête.
Voilà, nous montre la photo du monsieur. Dieu sait que j'aime les tatouages, mais là, je crois pas.
Oui, le gros tic sur le ventre, non?
Pas sûr.
Non, pas sûr.
Allez, Amélie, à demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Les routes France Inter.
C'est en Inde que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde, puisque c'est la journée sans plastique sur France Inter. Allons voir chez les autres, notamment chez ceux qui ont la réputation d'être de gros pollueurs. Imaginez qu'en juin dernier, l'un des plus grands états indiens, le Maharashtra, qui compte Bombay comme capitale, a mis en place une interdiction stricte de la production et de l'utilisation de différentes sortes de plastique à usage unique. C'est devenu indispensable. Ici, le plastique bloque les canalisations et entraîne des inondations catastrophiques dans cette mégapole de 20 millions d'habitants, sans parler évidemment de ce qui finit dans la mer. Bonsoir Sébastien Farcy.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et Sébastien, c'est pas le premier état indien hein, qui instaure une telle interdiction, et les résultats dans les autres villes sont assez mitigés. Emmenez-nous donc à Bombay voir comment ça se passe.
Avant, il y avait du plastique partout ici. Maintenant, il n'y a plus de plastique, car les gens emportent des sacs de toile.
Ravi Jattare, l'inspecteur municipal du marché de Kourla, dans le nord de Bombay, réalise son contrôle quotidien. Il avance doucement dans les allées bordées d'étals garnis. Il s'arrête parfois, passe derrière et ouvre les tiroirs et placards des marchands de légumes ou de poissons pour s'assurer qu'aucun ne possède ces sacs en plastique léger interdits depuis la fin juin. Chez le boucher, nous lui montrons de grands sacs à l'aspect suspect, vendus pour une petite somme d'argent.
Oui, ces sacs sont autorisés. Ils comprennent du plastique, mais au bout de quelques mois, ils commencent à se biodégrader.
Dans ce marché, la loi est donc bien respectée. Il faut dire que l'inspecteur rôde et que l'amende est sévère. 5000 roupies, soit 65 euros, cela représente le tiers d'un revenu mensuel moyen d'un Indien. En revenant sans l'agent municipal, les commerçants nous disent comprendre la logique de cette interdiction.
Mais cette loi est bonne. Au début, les gens râlaient. Maintenant, ils apportent leurs sacs en toile ou nous leur en vendons. Nous n'avons donc plus à payer pour les petits sacs en plastique. Nous leur offrons juste du papier journal. Le prix du papier journal a d'ailleurs doublé depuis l'interdiction des sacs en plastique. Mais cela reste pas cher.
Mais une fois sorti de cet espace bien contrôlé, l'anarchie de Bombay reprend ses droits. En face du marché, un commerçant vend par exemple des verres et des assiettes en plastique blanc, censés être interdits. Et quelques centaines de mètres plus loin, dans une rue, on trouve deux vendeurs ambulants qui emballent leurs fruits dans les fins sacs plastiques noirs bannis. L'un d'entre eux, le regard fuyant, se justifie.
Qu'est-ce que je peux faire? Les clients ne veulent pas de papier journal. C'est pas pratique à porter, donc j'utilise ces sacs. Et si je vois la police, je pars en courant.
L'ordonnance entrée en vigueur en juin dernier est très stricte. Elle interdit toute production et utilisation de plastique ou de polystyrène à usage unique. Cela couvre toutes les assiettes, les verres couverts en plastique, ainsi que les bouteilles de moins de 200 ml et les sacs d'une épaisseur de moins de 50 microns. Et bien sûr, les pailles et une grande partie des emballages en plastique sont également interdits. Et ceci, pas seulement à Bombay, mais dans tout l'état du Maharashtra, qui compte plus de 120 millions d'habitants. Cette interdiction a toutefois été très soudaine. Les autorités régionales n'ont donné que 3 mois aux milliers d'usines de plastique pour s'adapter. Ce qui a causé un vrai désastre économique, selon Iten Beda, responsable de la section environnement dans l'association indienne de producteurs de plastique.
It is affected about 9-10% of the total polymer consumption in Maharashtra.
Cette interdiction a fait chuter de 9 à 10% la consommation de plastique au Maharashtra. Plus de 1000 usines ont été touchées. Soit elles ont dû changer leur activité, soit elles ont fermé. Dans toute la filière de l'emballage plastique, nous estimons qu'environ 400 000 travailleurs ont donc été touchés. Ils ont dû se former à nouveau pour d'autres tâches ou chercher un autre emploi.
La méthode de cette interdiction semble donc très abrupte, mais ses bénéfices sur l'environnement sont déjà visibles, selon Staline D, directeur de l'ONG environnementale Vana Shakti.
La réduction de consommation du plastique non biodégradable a beaucoup aidé à réduire la pollution maritime. Si vous allez dans les mangroves de Bombay, vous trouverez des centaines de tonnes d'anciens plastiques. Mais il y a beaucoup moins de nouveaux déchets plastiques qui y sont déversés.
La mer au large de Bombay est l'une des plus polluées du monde, selon une compilation d'études internationales publiée l'année dernière. Et le plastique est la première source de cette pollution.
Sébastien Farcy, dans la journée sans plastique de France Inter et d'Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Fantastique aussi, mais rien à voir. Billie Holiday, Comes Love.
What to do? Blow a tire, you can buy another shoe. Comes love, nothing can be done. Don't try hiding, 'cause there isn't any use. You'll start sliding when your heart turns on the juice. Comes a headache, you can lose it in a day. Comes a toothache, see your dentist right away. Comes love, nothing can be done.
Elle s'appelle Billie Holiday et elle est sur France Inter. 3,
2, 1, Letter.
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jour.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Le cinéma en VO et Eva Bétan dans Un jour dans le monde. Eva focus ce soir sur le film qui a eu l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Synonyme, signé Nadav Lapid. Le cinéma israélien nous a donné beaucoup de films, Eva, beaucoup de films critiques vis-à-vis de la politique,
oui,
en fait, donc
tous,
des films de gauche, on va dire.
Des films de gauche,
voilà, on va dire ça comme ça. Nadav Lapid, oui, vous dites qu'il est arrangé dans une autre catégorie.
Dans aucune d'ailleurs.
Voilà, c'est plutôt l'âme de son pays, c'est tel que vous nous l'expliquez, tel qu'elle est façonnée depuis des années qu'il remet en cause. Vous allez nous en parler, on écoute la bande-annonce d'abord.
Is this you?
Is this you?
Je ne veux pas travailler.
Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur.
Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis.
Je serai français.
Ça ne suffit pas.
Partir, repartir.
Pas et d'abord, ça va.
Attends, c'est bon.
La France, la France. Tu connais qui comme français à part nous deux?
Céline Dion. Go away, Dad.
I'm going away.
C'est là qu'il faut prendre les bases, du coup. Alors, ouais. Ça veut dire quoi, Eva? Remettre en cause l'âme de son pays.
Vous savez, quand le film a eu l'ours d'or à Berlin, Nadav Lapine racontait que la télévision a interrompu ses programmes. Ça n'arrive dans les cas très graves. Et on a parlé de très grave comme d'un héros israélien. Il n'avait pas encore vu le film. Quand on a commencé à voir le film, ça a été plus mitigé. Il disait que des jeunes l'arrêtaient dans la rue pour dire que ça a été très important pour eux, mais une personne sur quatre le traitait de traître. Pour vous dire, les deux films précédents étaient cinglants. Ça s'appelait Le policier et l'institutrice sur une brutalité intrinsèque de la société israélienne. Là, il va plus loin. Cet homme-là quitte Israël après le service, il vient à Paris, il ne veut plus en entendre parler. Et on pourrait dire que ça peut être qu'une crise. Non, il va beaucoup plus loin parce que ce qui se remet en cause, c'est un des mythes d'Israël, qui est que on ne peut pas se permettre de perdre une guerre sinon on disparaît. Donc le service militaire, c'est une réalité, mais c'est aussi complètement entré dans la psyché israélienne.
Moi, j'ai l'impression qu'en Israël, on commence le service militaire quand on a 4 ans et on ne les finit jamais. Parce que le service militaire, c'est quelque chose qui va bien au-delà de ces années qui sont déjà très constitutives. Vous portez un fusil et des uniformes. Imaginons un pays où on a l'impression que le moment le plus important, le plus sublime, le plus essentiel, c'est ce moment du service militaire. C'est un peu comme, je sais pas, une mariée qui sait que son mariage sera le plus beau jour de sa vie. Et là, donc, à force de ça, du coup, il y a une sorte d'échelle des vertus et des défauts qui se construit. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être un bon soldat? Courir vite, tirer bien, être prêt à mourir, être prêt à tuer, ne pas poser des questions, ne pas avoir des doutes, être fort, être agressif, être violent, oui. Être fragile, être vulnérable, aimer la dialectique, poser des questions, avoir des doutes, non, pas du tout. Et une fois que ça s'est construit dans les âmes, ces dichotomies, les conséquences par rapport à, justement, à l'âme du pays sont désastreuses.
Et on comprend pourquoi vous nous dites qu'il va loin. Eva, il remet en cause les mythes fondateurs, en gros.
Oui, notamment la langue. Cet homme dit « je ne veux plus parler un mot d'hébreu ». La langue, c'est l'identité de tous les pays, mais quand Israël se crée, on reprend la langue de la Bible pour en faire une chose vivante. Dans les mythes, il y a aussi le fait qu'Israël, c'est l'endroit où les Juifs persécutés un peu partout avaient enfin une terre. Or, qu'est-ce qu'il dit? Israël a trahi sa promesse. Non seulement on peut, mais on doit quitter Israël.
J'ai dit... Même il faut avoir envie de fuir Israël. C'est l'échec essentiel. Il y a ce moment où Yoav parle de son grand-père ultra-zioniste qui à l'époque est parti de Lituanie pour aller en Israël, qui était encore un pays d'épidémie et de déserts et de dangers, etc., etc. Et qui a cessé de parler en yiddish et qui était d'accord de parler que en hébreu. Et Yoav, il fait la démarche opposée, mais il dit, je suis sûr qu'aujourd'hui, mon grand-père aurait fait exactement comme moi. C'est d'une certaine manière, il dit, un vrai Israélien aujourd'hui, ne peut plus vivre en Israël. Celui qui comprend vraiment, profondément la vraie vision, la vraie promesse qui était derrière tout ça, il est obligé de fuir.
Mais il demeure.
C'est intéressant, parce qu'on comprend mieux ce que vous nous racontez au début. On l'applaudit au début, puis après on réfléchit.
Et il magnifie, il utilise très très bien la dialectique. D'ailleurs, son film entier est ambigu. Parce que quand il vient en France, cet homme beau, magnifique, sportif, est beaucoup plus séduisant que les Français un peu palichons et teints qu'il rencontre.
C'est un film inter, oui. Eva, et ça s'appelle Synonyme, et c'est signé Nadav Lapine. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est une élection qui risque de passer un peu inaperçue, mais ce serait dommage. Dimanche prochain, la petite Slovaquie en Europe centrale va voter et elle pourrait nous obliger à réviser notre vision caricaturale d'une ex-Europe de l'Est qui aurait totalement basculé dans le populisme. C'est votre Monde à l'envers.
Alors retenez bien son nom, Zuzana Kaputova. Elle est le symbole de cette Europe de l'Est qui ne se résume pas au très illibéral Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Autrement dit, mettre toute l'Europe de l'Est ex-communiste islamistes sous la même étiquette de dérive populiste, c'est non seulement caricatural, mais aussi un poil condescendant. Or donc, Zuzana Kaputova est en passe de devenir le parfait contre-exemple. Dimanche, elle a de fortes chances de devenir le nouveau président de la Slovaquie. 5 millions d'habitants au cœur de l'Europe de l'Est, entre la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Elle est arrivée largement en tête au premier tour et tous les sondages prédisent sa victoire avec environ 65% des voix au second tour, largement devant le candidat du pouvoir Marcos Šefčovič. Pourquoi est-ce que c'est un symbole? Parce que Madame Kaputova, c'est l'anti-Orban. Une femme de 45 ans, divorcée, militante des droits de l'homme et de l'environnement, pro-européenne, pro-avortement, favorable au mariage gay. Et son parti, Slovaquie progressiste, n'a que 2 ans d'existence. Elle a fait campagne en refusant d'entonner les refrains anti-immigration de l'extrême droite et en dénonçant la corruption mise au grand jour par l'assassinat l'an dernier en Slovaquie du journaliste Jan Kuciak qui enquêtait sur les liens entre les dirigeants politiques slovaques et la mafia italienne.
Donc la Slovaquie, c'est le village d'Astérix, c'est ça ?
Oui, sauf qu'il y a plusieurs villages Astérix à l'Est en fait. Il y a d'autres exemples dans d'autres pays qui mettent la puce à l'oreille. D'abord la vaste Pologne, alors là pour le coup c'est 40 millions d'habitants. Le parti de droite radical PiS est certes toujours aux manettes, mais il est désormais contesté. L'opposition a largement remporté les dernières élections municipales. Elle s'est imposée dans la totalité des grandes villes. Varsovie, Lodz, Gdansk, Tchétchine, Cracovie, etc. Elle s'incarne dans la plateforme civique qui se pose en rival crédible du PiS en vue des européennes. En fait, la Pologne est aujourd'hui un pays profondément divisé. Autre exemple, la République tchèque. C'est vrai, le président Miloš Zeman est un populiste aux accents xénophobes. Mais le très iconoclaste parti pirate situé entre les écologistes et le centre-droit est désormais deuxième dans les sondages. Et cette semaine, le Parlement tchèque examine un projet de loi visant à légaliser le mariage gay. Ce serait une première dans l'ancien bloc des pays de l'Est. On pourrait ajouter dans le paysage de forts mouvements de contestation dans plusieurs pays, membres ou pas d'ailleurs de l'Union, par exemple en Roumanie ou en Serbie. À chaque fois dans le viseur, la corruption et les dérives autoritaires des pouvoirs en place.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'assister peut-être à un début de reflux du populisme en Europe ?
Alors, je vais faire le normand, quoi, la réponse complexe. Hein. Oui et non, je m'explique. D'abord, bon, rappelons qu'il y a des tas de formes de populisme, c'est un mot fourre-tout. Hein. Mais surtout, c'est une erreur de dire dans une équation simpliste, le populisme est à l'Est. Il y a guère que la Hongrie, en fait, qui soit vraiment tenue de A à Z par un parti populiste assuré de l'emporter haut la main lors des prochaines européennes. Partout ailleurs, à l'Est, le paysage est hétérogène, contrasté avec des pays souvent coupés en deux comme la Pologne. En fait, aujourd'hui, le populisme, il est de plus en plus à l'ouest, pas à l'est. Je pense à l'Italie, évidemment, mais aussi aux poussées extrémistes en Espagne, aux Pays-Bas. Aux prochaines européennes, les droites radicales devraient enregistrer une progression significative à l'échelle de l'Union, mais elles devront s'être percées d'abord aux pays de l'Europe de l'Ouest. Le discours simpliste, xénophobe, anti-européen tourne désormais à vide dans toute une partie de l'Europe de l'Est, où l'attachement en fait, à l'Union européenne est très fort. En fait, le moteur le plus puissant pour de nombreux électeurs européens est ailleurs aujourd'hui. C'est de sanctionner tout pouvoir soupçonné de corruption, voire tout pouvoir perçu comme trop élitiste, trop coupé du monde réel, quelle que soit sa couleur politique. Alors parfois ça sert les populistes, parfois ça peut les mettre dehors.
Jean Marfour et Le Monde à l'envers, tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, le 18-20. La suite, Journée sans plastique sur France Inter avec vos solutions, vos tactiques anti-plastiques. À tout